Le journal Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Une force mobile nationale créée à la rentrée prochaine pour aider les établissements scolaires confrontés à des menaces. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, l'a annoncé hier. L'association de protection des animaux One Voice va déposer plainte après la mort jeudi d'une orque au Marineland d'Antibes. Elle exige l'arrêt immédiat des mauvais traitements infligés à ces animaux.
Élection municipale demain en Turquie. Le président Erdogan veut reconquérir les grandes villes et notamment Istanbul, tombé aux mains de l'opposition, mais la concurrence est rude.
Les élections européennes avec une nouveauté en Belgique, le vote sera possible dès 16 ans et même obligatoire comme c'est le cas pour la plupart des élections en Belgique. Et puis l'e-sport français en pleine forme, ses revenus ont bondi en moyenne de 55% par an entre 2019 et 2022. La ministre de l'Éducation l'a annoncé hier, une force mobile nationale pourrait être déployée à la rentrée prochaine dans les établissements scolaires visés par des menaces d'attentats. Déclaration faite en Gironde après une visite dans le lycée professionnel Trégérive de Garonne à Bordeaux, là où plusieurs professeurs et le proviseur ont été la cible de telles menaces. Nicole Belloubet leur a apporté son soutien et a pu échanger avec quelques-uns des 500 élèves de l'établissement. Jules Brelat a suivi cette visite.
Enseignante en économie et gestion dans ce lycée professionnel Trégé du quartier de la Benauge à Bordeaux, Mina se dit soulagée après sa rencontre avec Nicole Belloubet.
On a beaucoup apprécié le fait qu'elle soit venue. Cette semaine, nous avons reçu 3 mails de menaces, plus particulièrement le dernier où étaient mentionnés certains de nos collègues enseignants. Avec les noms, prénoms, forcément ça fait peur. On se dit, est-ce qu'on est vraiment en sécurité ?
Nicole Belloubet a également échangé avec des élèves de l'établissement.
C'était la ministre, j'étais un petit peu stressée.
Mohamed et Karamadi sont inscrits en bac pro électricité.
On est inquiet pour nos professeurs qui sont là tout le temps pour nous et qui sont menacés.
C'est dangereux pour les profs. Pour nous.
Face à ces menaces récurrentes, la ministre de l'Éducation nationale annonce le déploiement d'une force mobile scolaire.
Ce seront des CPE, des personnels qui viendront aider les chefs d'établissement pendant un temps qui pourra être de 3 semaines, d'un mois, le temps que la situation se stabilise, s'il y a une situation de crise. Et nous aurons une 20aine de personnes pour commencer qui travailleront dans cette équipe nationale.
Mise en place à la rentrée 2024 et mobilisable sous 48 heures, cette équipe ne convainc pas pour le moment. Le SNUEP FSU à Bordeaux, le syndicat d'enseignants des lycées professionnels y voit un dispositif qui existe déjà, à savoir les équipes mobiles de sécurité qui dépendent des rectorats.
C'est un lycéen de 16 ans soupçonné d'être à l'origine de ces menaces a été interpellé hier matin au domicile de ses parents à Bordeaux. Le parquet de Bordeaux a confirmé que l'adolescent a reconnu partiellement les faits et justifié son acte par sa paresse d'aller en cours, mais a contesté toute malveillance et toute velléité de passage à l'acte. Après 24 heures de garde à vue, il doit être déféré aujourd'hui au parquet. Il encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Un autre jeune de 17 ans, arrêté jeudi à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, sera également présenté ce samedi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen dans cette enquête sur l'envoi de menaces à des établissements scolaires. L'efficacité des opérations PlaceNet XXL de Gérald Darmanin laisse perplexes policiers spécialisés et magistrats. 10 jours après le début de l'opération, 75 kilos de stupéfiants ont été saisis à Marseille, 2,5 kilos après la première journée dans le Nord et quelques dizaines de grammes à Colombes dans les Hauts-de-Seine lors d'une descente qui a mobilisé une 100aine de policiers. Le traitement des orques au Marineland d'Antibes pointé du doigt. L'association de protection des animaux One Voice va déposer plainte après la mort d'une orque mâle âgée de 25 ans, Inouk, jeudi. C'est le 2e décès en 5 mois après celui en octobre dernier d'une femelle de 12 ans, Moana. En milieu sauvage, les orques vivent entre 50 et 90 ans. Depuis 5 ans, One Voice alerté sur le mauvais état de santé d'Inouk. Écoutez les explications de Muriel Arnal de One Voice.
Tous les états de santé qui ont pu être observés, sur Inouk notamment, qui était le plus malade, mais aussi sur Moana, qui est décédé à seulement 12 ans, ce qui est infiniment jeune, sont dus à la captivité. La nageoire dorsale qui s'effondre, les dents dans un état extrêmement mauvais, puisque Inouk était déclaré par les scientifiques spécialistes être l'orque captive à avoir la mâchoire en plus mauvais état au monde. Tout cela, c'est dû à la captivité de ces géants des mers qui sont enfermés dans des bassins sans aucune occupation, si ce n'est un entraînement pour des spectacles, qui sont des répétitions totalement inintéressantes pour des animaux avec une intelligence pareille. À partir de 2026, les Delphinarium ne pourront plus détenir les orques. Marineland ne le veut plus de toute façon parce que le public ne veut plus voir ce type de spectacle. Il faut une solution de sanctuaire, mais en attendant, il faut qu'il y ait au bord des bassins des spécialistes des orques qui cessent d'avoir cette vision de la captivité. Il faut aujourd'hui qu'elle soit soignée correctement, qu'on arrête les spectacles, le dressage en rétribution de nourriture et tout ce genre d'artifices.
Muriel Arnal de One Voice au micro de Véronique Robérot et l'association plaide donc pour l'envoi des deux dernières orques françaises dans un sanctuaire de 44 hectares situé en Nouvelle-Écosse au Canada, alors que le Marineland d'Antibes veut les vendre à un zoo japonais. Une manifestation est prévue cet après-midi à 14h30 devant le parc aquatique.
France Culture, il est 8h06, le journal Marie-Hélène Duvigneau est direction la Turquie. À présent, les électeurs sont appelés aux urnes demain pour des municipales qui s'annoncent très très disputées.
Oui, ce alors que le président Recep Tayyip Erdogan a juré de reconquérir les grandes villes raflées par l'opposition il y a 5 ans, notamment Istanbul, dont il fut le maire dans les années 1990. Mais la tâche ne sera pas facile. Son parti est concurrencé par une formation islamiste, le nouveau parti de la prospérité, qui séduit dans les rangs de ses électeurs. Le reportage à Istanbul de Marie-Pierre Véraud.
C'est une petite musique qui monte et ne plaît pas au président Erdogan, celle du nouveau parti de la prospérité, le Yeniden Refa. En campagne à Istanbul, son candidat arbore un large sourire.
Regardez, chaque fois qu'on est entré dans un magasin, on a eu de nouveaux membres. Dans toute la Turquie, nous avons des représentants et 7000 nouveaux membres nous rejoignent chaque jour. On vient de battre un record mondial. On rentre dans le Guinness des records.
Déjà plus d'un demi-million d'adhérents, le parti surfe sur la crise économique. Humit votera pour lui.
On a voté pour Erdogan au présidentiel, que je sois maudit si je recommence, à cause de l'inflation.
Le nouveau parti de la prospérité fait aussi campagne sur la probité, dénonçant la corruption du gouvernement, ce qui a séduit Elif, une jeune communicante.
Dans les institutions, rien ne marche. Le système de piston bat son plein partout. Les jeunes ont perdu tout espoir. Ils n'ont plus confiance. Nous voulons un changement. Nous voulons un parti qui soit bien. C'est ça notre attente. Et c'est pour cela qu'il faut un changement.
Ce parti offre en fait une alternative aux électeurs conservateurs musulmans, mécontents de l'AKP, mais qui ne pouvaient se résoudre à voter pour l'opposition laïque. Un parti qui se déchaîne contre Israël, veut rogner les droits des femmes et est en passe de devenir le troisième du pays.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donne son feu vert à de nouveaux pourparlers en vue d'une trêve dans la bande de Gaza assiégée. Alors que la population du territoire palestinien est menacée de famine, Israël affirme ne pas s'occuper de la distribution de nourriture à Gaza et accuse des agences de l'ONU d'être incapables de gérer la quantité d'aide qui y arrive chaque jour. L'État hébreu met aussi en cause un rapport onusien qui alerte sur ce risque de famine, jugeant qu'il contient notamment des inégalités. Exactitude. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévient dans une interview publiée hier par le Washington Post, si l'Ukraine ne reçoit pas l'aide militaire américaine promise, ses forces devront battre en retraite devant l'armée russe. L'Ukraine qui a imposé d'urgence hier des coupures d'électricité dans plusieurs régions après que de nouvelles frappes russes massives ont endommagé 3 centrales thermiques. On en vient aux élections européennes. Elles se déroulent, vous le savez, du 6 au 9 juin dans l'ensemble des États membres, avec une nouveauté en Belgique où il sera possible de voter dès 16 ans. C'est une première dans le Royaume et pas d'exception pour ces nouveaux votants. Comme c'est le cas pour la plupart des élections en Belgique, le vote sera obligatoire. Mais pour ces jeunes, il n'y aura pas de sanctions s'ils n'accomplissent pas leur devoir de citoyen. Alors comment ce vote à 16 ans est-il perçu par les principaux intéressés? Jean-Jacques Herry est allé poser la question. Question à Bruxelles, à quelques-uns des 270 000 Belges mineurs qui voteront dans quelques semaines.
Maïsan a 16 ans bientôt et pour la première fois, elle recevra une convocation pour aller voter. L'élève de 5e secondaire, l'équivalent de la première, s'avoue un peu perdu.
Aux élections européennes, c'est ça? C'est obligatoire, c'est ça? C'est en début juin, c'est ça? On n'est pas trop informé à l'école, etc. Si c'était pas obligatoire, je serais pas partie voter.
De quoi faire réagir sa sœur Méline, pas du tout d'accord.
Ça nous prépare aussi pour plus tard à nous intéresser à la politique petit à petit. Je suis même abonnée à des comptes Instagram, ils me disent oui, t'as le parti politique, c'est ça leur projet. Et maintenant, je m'informe, mais je vais pas voter n'importe qui, je vais voter quelque chose qui m'intéresse et moi je suis contente que ma voix elle compte pour une fois.
Tom, lui, pèse soigneusement ses mots avant de faire part de ses doutes.
Je trouve qu'on n'est pas assez mature, je pense, à 16 ans, on n'a pas eu assez d'expérience pour voter, quoi. J'irai voter, car on est obligé.
On l'entend, il règne une certaine confusion. En effet, les modalités du vote pour les 16-17 ans ont plusieurs fois changé, d'abord optionnel et sur la base du volontariat. Il est finalement devenu obligatoire il y a 10 jours, après un arrêt de la Cour constitutionnelle belge, comme pour tous les citoyens belges. À la différence que les mineurs, eux, ne seront pas sanctionnés s'ils ne votent pas. Une mise en œuvre et une décision arrivée trop tard, estime l'eurodéputée belge Saskia Briquemont du Parti Écolo.
Mais d'un autre côté, si on voit le côté positif des choses, eh bien ça permet aujourd'hui, je pense, à un nombre plus large de jeunes et d'enseignants aussi d'en parler à l'école et à pas mal de gens de prendre conscience de ce droit qui s'ouvre à eux. Et ce n'était pas nécessairement encore le cas pour tout le monde.
Et l'eurodéputée d'espérer que ces élections marqueront une première étape vers un élargissement et un rajeunissement plus global du corps électoral belge.
Il y a 10 semaines des élections européennes, les responsables des groupes libéraux et verts au Parlement européen ont réclamé hier l'ouverture d'une enquête interne après l'identification par des services de renseignement d'un réseau d'influence financé par Moscou. Dans quel état de forme sera le pape ce soir pour la veillée pascale? Hier soir, alors que sa présence était attendue, François a renoncé à participer au chemin de croix autour du Colisée à Rome pour préserver sa santé avant les cérémonies du week-end, précise le Vatican. Un signe de plus de la fragilité physique du pape âgé de 87 ans, Bruno Duvic.
C'est en dernière minute que la participation du pape au chemin de croix a été annulée. Son fauteuil était même installé sur une colline face au Colisée. Le message du Vatican implique qu'à ce stade, sa participation à la veillée pascale reste prévue. Même chose pour la messe du dimanche matin et la bénédiction Urbi et Orbi. Mais de bronchite en vieillissement, la santé précaire de François est de plus en plus criante. Il est en fauteuil roulant très régulièrement depuis 2 ans. Il laisse fréquemment d'autres que lui lire ses textes. Hospitalisé à 2 reprises l'année dernière, les poumons très fragiles, il ne peut plus assurer l'intégralité des engagements très exigeants de son magistère. Hier après-midi, encore au Vatican, même si chacun est conscient que tout peut basculer d'un instant à l'autre, on assurait ne pas avoir d'inquiétude particulière pour sa santé en ce week-end de Pâques. Il a présidé sans difficulté apparente la messe du Vendredi Saint, mais la question est désormais sur toutes les lèvres, combien de temps le pape pourra-t-il tenir ?
Bruno Duvic à Rome. Retour en France où l'e-sport a le vent en poupe. Selon un rapport de l'Observatoire économique de l'e-sport français, ses revenus ont fait un bond de 55% par an en moyenne entre 2019 et 2022 et même de 92% en 2022. Un secteur florissant donc, qui par ailleurs emploie plus d'un millier de personnes. Pour l'enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité en sociologie du sport et membre de l'association France e-sport, Nicolas Besombe, l'ampleur de ces sports virtuels et simulés sportive ne peut plus désormais être remise en question.
C'est une pratique qui s'ancre de plus en plus dans la culture des nouvelles générations, dans leurs loisirs, dans leurs hobbies quotidiens, capable de remplir des stades pour des grandes compétitions internationales. On a des champions et des championnes sur à peu près tous les jeux majeurs qui existent dans l'e-sport. Là, pendant le week-end de Pâques, on a plusieurs équipes françaises qui sont à Copenhague, au Danemark, pour essayer de remporter des titres internationaux sur des jeux comme Rocket League ou Counter-Strike. Aujourd'hui, c'est 2,3 millions de personnes qui pratiquent des compétitions de jeux vidéo. C'est 12 millions de personnes qui s'y intéressent en France. Et c'est un véritable laboratoire d'innovation entre la pratique sportive et les nouvelles industries créatives et culturelles, sur les nouvelles formes de médiatisation, sur l'intelligence artificielle. C'est bien plus qu'un phénomène de mode, comme certains auraient pu le croire.
Vous nous décrivez un monde de rêve. Il n'y a pas de soucis au milieu de tout ça ?
Si, il y a plein de soucis. Comme dans toutes les pratiques sportives ou culturelles, il y a des dérives, il y a des aspects sur lesquels il faut rester attentif, que ce soit en termes de manque de diversité, en termes d'impact sur la santé publique, en termes d'éthique et d'intégrité, en termes d'enjeux économiques. Le secteur est très jeune et donc il est fragile et confronté à des défis pour les prochaines années, notamment en termes de durabilité, de pérennisation sociale, économique, environnementale.
Le sociologue du sport Nicolas Besombe, interrogé par Éric Chavroux. Le temps, aujourd'hui instable du nord au massif central et dans le sud-est, la Dordogne et la Corrèze sont-elles en vigilance orange pour crue? Les températures au meilleur de la journée, 11 à 16 degrés sur la plupart des régions, localement 17 à 20 sur la façade est et dans le sud, jusqu'à 21 à 22 en Corse.